Radar.
Actu culturel.
Plus qu'une émission, une transmission. Eh bien, salut à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle émission de Radar, votre émission culturelle, toujours en compagnie de Lucas, bien évidemment. Bonjour Lucas.
Bonjour Lucas, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, Lucas, ça ne va toujours pas depuis la dernière fois, puisque je suis toujours enrhumé.
Ah voilà. Terrible. Oui. Parce que quand même, il y a eu les fêtes de Noël entre-temps, il y a eu le Nouvel An entre-temps.
Mais oui, mais tu vois.
Et tu as décidé de manger pendant les repas de famille le nez bouché ?
Oui, exactement. Ah mais bon. Tu sais quoi, je crois que le Père Noël, finalement, il ne m'a pas apporté mes vrais cadeaux, mais il m'a apporté un bon gros rhume.
Eh bien, méchant Père Noël.
Méchant Père Noël.
Méchant Père Noël. Je pense que c'est le Grinch.
Oui.
C'est la faute du Grinch,
oui,
c'est ça ?
Exactement.
On est d'accord ? Okay.
Je pense, oui, clairement.
C'est bien ce que je pensais.
Et toi, comment vas-tu ?
Bah, écoute, depuis le temps, ça va plutôt bien. Très content d'être en 2023. Parce que, après tout, j'allais trouver une signification au nombre 2023, mais en fait, j'en ai pas du tout.
Moi non
voilà.
Plus.
Donc,
c'est
pour ça. Si ce n'est juste pour des fans de rugby, à la limite, c'est une bonne année. Bon, après, à part
oui,
ça, il n'y a pas grand chose.
Effectivement, ça serait une bonne année.
Il y a quoi d'autre en 2023 d'intéressant, à part la Coupe du Monde de rugby
2023.
Est-ce que, je sais pas, il n'y a pas un championnat du monde de water polo ou...
Ou peut-être de volley ?
Eh ben tu sais quoi, je crois que The Weeknd fait une nouvelle tournée en 2023 pour les fans de la fin de semaine.
Ah ouais ?
C'est toujours bien. Bon, moi j'aime bien la fin de semaine.
Ok, ok.
Mais à part ça, j'ai rien en tête là qui me vient pour l'année de 2023.
Moi, j'espère seulement qu'on ne verra pas disparaître Bob Dylan.
Et
voilà.
Et donc tous les ans, au 1er janvier, tu arrives et tu te dis « Ah, j'espère que cette année, Bob Dylan, il va pas nous lâcher, quoi. »
Exactement, qu'il va pouvoir continuer sa tournée.
Eh ben, je veux pas être pessimiste pour toi, mais la reine d'Angleterre est partie l'an dernier, donc...
Ah ouais ?
T'es pas au courant ?
Non.
Ok, bon, tant pis. Bah, de toute façon, on va commencer l'année sur une note positive.
Exactement.
Puisque c'est le retour de Radar pour 2023. Est-ce que c'est pas formidable, c'est
Lucas ? Oui, c'est
nickel.
Beau.
Eh ben, c'est
beau.
Génial. Eh ben, dis-moi, Lucas.
Aujourd'hui, on va parler de quoi ?
Eh ben, je ne sais pas. Dis-nous tout.
Mais on va parler des bonnes résolutions.
Ah oui, c'est vrai.
Tu sais pourquoi ?
Non.
Eh ben, parce qu'on est en janvier.
Eh oui, et qu'en janvier, c'est le mois où tout le monde abandonne ses bonnes résolutions prises le 31 décembre.
Exactement.
On est d'accord ?
Oui, oui, clairement. Ouais. T'en as fait, toi, des résolutions, Lucas, ou pas ?
Je pourrais pas dire que j'en ai prises. Parce que je sais très bien, avant même le 1er janvier, que je ne les ai déjà pas tenus dans ma tête.
Ouais, pareil.
Donc voilà. Après, c'est toujours un peu les mêmes trucs du style « je vais me mettre à travailler », mais ça, c'est comme ça depuis longtemps.
Tu es artisan de la procrastination ?
Évidemment, mais
ouais,
complètement.
Je crois qu'on l'est tous un peu dans la vie.
Je trouve que artisan, ça me colle bien.
Oui, c'est vrai que c'est beau, ouais.
C'est vrai, c'est très très beau. Bon, eh bien, c'est vrai que on va quand même parler des bonnes résolutions.
Oui, on va parler des bonnes résolutions.
Même si on n'en a pas.
Non, mais... Bon, finalement, est-ce qu'on n'en a pas, au fond
Oui.
Je sais pas, moi...
Peut-être des souhaits.
Oui, des souhaits. T'aurais un souhait, toi, pour l'année 2023 ?
Eh bien, c'est que... Bob Dylan ne meurt pas. Non, je plaisante.
Oui, effectivement.
Non, je dirais peut-être... Non, j'en ai pas.
Moi, je crois, en vrai, si j'avais un souhait, ça serait participer à Roland-Garros. Enfin, participer. Être dans le public, bien évidemment. Hein, je ne vais pas.
Ouais.
Non, il ne faut pas. Mais, je pense, faire une édition de Roland-Garros, ça serait un truc que je kifferais assez.
Ouais, c'est pas mal.
Bah ouais,
c'est vrai que c'est pas mal. Tu vois, le problème, c'est qu'en général, ça tombe au moment des partiels.
Ah bon ? Ah oui, ouais,
Et encore
Ouais, il y a moyen quand même.
Ça peut passer.
Mais c'est en juin.
Oui, c'est vrai. Non,
c'est en juin,
je raconte que les
conneries. Bon, il y aura peut-être des concours.
Oui, c'est vrai.
Donc,
c'est vrai,
à la rigueur, là, peut-être...
C'est compliqué. Très compliqué.
On verra bien. Écoute, je ne me projette pas pour le moment.
Très bien. Bon, eh bien,
Lucas... Eh bien, écoute, Lucas, moi, je te propose de faire une introduction philosophique sur les bonnes résolutions. Et comme tu le sais, je suis un grand philosophe et donc je vais essayer, tout en m'appuyant sur quelques personnalités, de faire une étude rapide de la notion de bonne résolution.
Alors oui, j'ai juste quelque chose à dire, Lucas, parce que quand je te vois, je voulais juste te dire une chose, mais la barbe ne fait pas le philosophe.
Ni la moustache, je te le dis.
Effectivement, c'est vrai. Non. Mais comme quoi, tu prouves que la barbe ne fait pas le philosophe.
Exactement.
C'est fou.
Et je vais te le montrer dès maintenant.
Très bien, bien, je t'écoute.
Eh bien, l'hypothèse philosophique et surtout 100% logique de base serait de dire que les résolutions prises en début d'année par Patrick, âgé de 16 ans, ne seront clairement pas tenues. Mais pourquoi, hein? Pourquoi, Lucas, comme on en a parlé, hein,
Je ne sais pas, peut-être lui aussi a-t-il décidé de se lancer dans l'artisanat.
Oui, exactement. Allez. Patrick n'est pas très motivé dans la vie, je pense. Et bien évidemment, je ne pourrais rien révolutionner puisqu'on retrouve des dizaines de psychologues qui ont bien évidemment des explications à tout cela. Pour ma part, Lucas, je ne vais en aucun cas me pencher sur ces individus, mais plutôt sur des philosophes. Peut-être que cela pourra vous éclairer et bien évidemment t'éclairer, Lucas, et peut-être même t'aider à mieux tenir tes révolutions. Non, tes
révolutions. Ah ouais, mes révolutions.
Voilà, on parlait de barbe. Oui.
Ouais, voilà,
voilà,
hein, ouais, barbe, révolution. Ça va de soi.
Exactement.
Mais oui.
Tout d'abord, Lucas, sais-tu ce que veut dire le terme akrasie ou akrasia en grec ancien?
Non, c'est vraiment un terme moche.
C'est vrai que c'est moche.
C'est moche.
Mais ça fait un peu cramoisi ou...
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est pas ouf. Eh bien, tu sauras que les anciens, parlaient d'acrasia pour désigner une faiblesse de volonté, le fait étant que tu agis à l'encontre de ton meilleur jugement. C'est pourquoi ce terme est en parfaite adéquation avec cette idée de bonne résolution que nous n'arrivons pas à tenir. Exemple tout basique, manger gras ou manger sain. Bien évidemment, la deuxième solution, elle est préférable. Vaut mieux manger une bonne salade avec des tomates, des concombres, plutôt que un bon gros KFC là, bien gras. Mais bon, ça n'empêche que le KFC, moi, il me donne envie, tu vois. Donc, on va aller tout de même vers la première, même si on sait que la deuxième est une bien meilleure idée. Pour Aristote, c'est parce que notre vie morale n'est pas exclusivement intellectuel, car on cède à des pulsions, des envies qu'il faut apprendre à dominer. Si on veut vaincre une addiction, il faut certaines vertus morales que sont la résolution, la volonté et le courage. Et selon lui, ce sont des vertus qu'il faut cultiver dès l'enfance pour qu'elles deviennent une seconde nature. Pour Alain, donc un autre philosophe, un véritable rationaliste, pour mettre un terme à une addiction, il faut le désirer profondément, que la réflexion soit faite. Il ne faut pas que ce soit seulement une volonté de passage. Beaucoup de gens ont la volonté de gagner de l'argent, obtenir son diplôme, écrire un best-seller. Ces vouloirs-là ne sont que de simples désirs, et comme Alain dit, désir est paresseux. Concrètement, pour Alain, le désir de mettre un terme à une addiction doit être accompagné d'une acceptation de souffrance, de manque et de douleur parfois, bien évidemment. Pour Sartre, je sais que tu adores Sartre, Lucas.
Ah, mais c'est vrai. Ouais, j'adore Sartre, hein. C'est pas complètement ironique.
De son nom
Jean-Paul.
Jean-Paul.
Jean-Paul. Jean-Paul. Et d'ailleurs, c'est quoi le nom de Alain? On l'appelle juste Alain dans,
ouais, on l'appelle
dans le Philosophe Game.
Oui, on l'appelle Alain.
D'accord.
Ouais,
okay,
ouais, on l'appelle Alain et pour te dire, je n'ai même pas son prénom. Je l'appelle Alain, moi.
C'est Alain.
Alain.
Ah, c'est possible.
Ouais,
c'est possible.
C'est Alain. On va l'appeler Alain.
Alors justement, Sartre, ça m'intéresse beaucoup parce que non, en réalité, je le déteste.
Ouais.
Je n'aime pas Sartre.
Pourquoi n'aimes-tu pas Sartre?
Déjà parce qu'il a un strabisme. Non, c'est faux. Non, je...
Tu sais que moi aussi, je peux faire du strabisme.
Non, mais moi aussi, donc c'est pour ça. c'était juste gratuit. Mais non, mais je te laisse terminer, et à la limite, parce que de toute façon, je reviendrai sur Sartre un peu après dans l'émission.
Écoute, je te parle de Sartre, alors. Eh bien, écoute, pour Sartre, c'est encore autre chose, puisqu'il prône l'idée de liberté de faire, de choix. Pour Sartre, automatiquement, l'homme se donne l'illusion rassurante de ne pas avoir le choix. Le problème étant que l'on se ment à soi-même en refusant d'affronter la liberté de conscience et de choix. Beaucoup de gens croient au déterminisme et se bercent de cette illusion. Pour Sartre, les adeptes de ce qu'il appelle la mauvaise foi, cette pratique liée donc au déterminisme, sont appelés donc par Sartre des salauds. Pour Sartre, il est donc primordial d'abandonner cette affirmation qui dit « c'était plus fort que moi » ou encore « je n'avais pas le choix ».
Très bien. Eh bien, tu sais quoi, moi, je vais montrer, oui, justement, un peu plus tard dans l'émission, que Sartre a peut-être un peu tort.
Ah bon ?
Oui.
Eh bien, voilà. Écoute, parce que j'attends ça avec
dans la philosophie, rien n'est absolu, je pense. Donc,
non, bien évidemment. Mais après, chacun sa vision de voir les choses. Hein, sa vision des choses. De toute façon.
C'est pas...
Les philosophes n'ont pas toujours raison.
Et puis, je dis pas ça parce que je suis plutôt de l'équipe Camus et pas Sartre. Mm-hmm. Mais bon, voilà. C'est
de son prénom, Albert.
Albert Reporter.
Exactement.
Ah oui. Bon, eh bien, Lucas, dis-moi, couramment autour de toi, est-ce que, en termes de résolution, il y a des résolutions qui reviennent assez souvent autour de toi ?
Des résolutions autour de moi qui reviennent, je dirais en premier, plus travailler de toute façon de base, mais je trouve ça un petit peu genre basique et c'est pas que c'est inintéressant, mais c'est trop basique. Mais la première qui me vient en tête, c'est de bien dormir. Parce que quand même, le sommeil est super important. Et c'est pourquoi on va parler du sommeil aujourd'hui.
Oui, on va parler du sommeil. Parce qu'on va parler un peu de ces gens qui prennent comme bonne résolution de bien dormir, de mieux dormir, d'avoir un cycle peut-être un peu plus régulier, de ne rester sur le téléphone jusqu'à 1h30, 2h du matin.
Exactement.
Pour se réveiller à 6h. Complètement la tête, je ne dirais pas où.
Oui, clairement. Parce qu'il faut savoir que quand même les premières heures de la nuit, à partir de 22h, 23h, ce sont les heures les plus importantes, celles qui te finalement où tu as le sommeil le plus profond. Donc c'est là où tu peux véritablement te reposer. Celles qui arrivent après 2h, 3h sont des heures beaucoup moins reposantes. Donc voilà, d'où l'idée de cette régularité, hein, bien évidemment.
Ouais, c'est vrai.
C'est,
c'est la raison pour laquelle, moi, Lucas, pour évoquer ce sujet, parce qu'on est quand même dans Radar, on va voir un peu, justement, comment l'art traite un peu la question de la bonne résolution, de bien dormir, du sommeil, c'est quand même important.
Ouais.
Moi, j'ai fait le choix de vous parler d'une œuvre assez intéressante, du nom de Oblomov, écrite par Ivan Gontcharov, parce que je crois que tu l'auras deviné, c'est de la littérature russe.
Oui, c'est beaucoup moins simple que Albert.
Ah oui, exactement, c'est vrai.
Ça pour le coup.
Mais parce que sais-tu, Lucas, d'ailleurs, à ce propos, puisqu'on était en train d'en parler juste avant, que près d'un Français sur cinq, et c'est des statistiques gouvernementales qui le prouvent, un Français sur cinq fait des insomnies régulièrement.
Ah ouais ?
Ouais.
Bon, en vrai, ça m'étonne pas trop.
Ouais.
Ah, surtout dans le monde où on est actuellement, dans lequel on vit actuellement, je comprends qu'il y en ait certains qui fassent même des cauchemars. Hein.
Non, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais, tu vois, moi, avec Oblomov, j'ai trouvé un bonhomme qui est loin d'être insomniaque. Et c'est pour ça que je vais quand même t'en parler. Parce que, bon, en fait, Oblomov, il y a Ilitch de son prénom et de son patronyme. Lui, il dort. Il dort très souvent, il dort un peu sur commande.
Je pense qu'il a un bon matelas, du coup.
J'imagine. Enfin, franchement, je pense qu'il a un bon matelas. Et franchement, j'aimerais bien savoir quand même la marque.
Oui, mais effectivement, pour faire du placement de produit.
Complètement. Parce que c'est un peu le principe de Radar, désormais.
Exactement.
Non, c'est faux. Non. Mais, Lucas, si je te parle d'oblomovisme, saurais-tu de quoi il s'agit à peu près ?
Non, du coup, je connais le strabisme. Quand on a parlé tout à l'heure, mais non, je ne connais pas oblomovisme.
Bon, eh bien, l'oblomovisme, c'est un terme qui apparaît justement dans le roman Oblomov et qui est devenu un terme un peu générique qu'on ne trouve pas ni dans le Larousse, ni dans le Robert, mais qui quand même, quand on parle d'oblomovisme, on sait quand même de quoi on parle, parce qu'il se rapproche un peu de la paresse. Quand on tape sur internet, on en trouve une assez complète, à mon goût, de définition, qui dit que c'est un état de paresse extrême, de rêverie passive, d'apathie, de léthargie, d'inertie, qui se manifeste dans l'horreur du travail et de la prise de décision. Donc, c'est-à-dire tout Oblomov, finalement. Parce que quand on lit Oblomov, c'est tout ça. Car, le personnage principal du roman éponyme d'Ivan Gontcharov est un peu tout ça à la fois, en fait. Ce livre, il est gros de 700 pages. C'est quand même une critique de la société russe de l'époque, du 19e siècle. Et la particularité de ce livre, et je pense que la plupart des gens qui ont envie de se la péter en général viennent te dire « Oui, non mais Oblomov, non mais mec, en fait c'est le livre où le gars ne se lève pas de son lit sur les 50, 70 premières pages. » Enfin, tu comprends, voilà. Et Et bon, c'est vrai, hein, pour l'avoir lu, Oblomov ne sort pas du tout de son, il sort pas du tout de son lit. Il craint, en fait, que le froid rentre dans sa chambre à chaque fois que des visiteurs ouvrent la porte de sa chambre. Et en fait, bah, dans l'histoire, par amour pour la jeune Olga, il bouge un peu. Il se met un peu à bouger, okay. à faire des activités, à sortir un peu. Mais pas trop non plus, en fait, tu vois.
Ouais, voilà.
Bon, on va y aller quand même un peu mollo, surtout qu'en plus, en Russie, à Saint-Pétersbourg, tu sais, il fait froid, donc faut pas il faut pas finir comme toi, au final.
Ouais,
il faut pas finir avec un rhume pour les fêtes de fin d'année. Et bon, voilà, en plus de la petite Olga qui le fait un peu bouger, il y a son ami Stolz qui est allemand, énergique, bourreau de travail, car bon bah voilà, je suis désolé de le dire, mais au 19e siècle, c'est un peu l'image qu'on a des casques à pointe en Russie. et ben ce Stolz encourage Oblomov également à entreprendre des projets. C'est lui qui guide notre héros à prendre en charge le domaine dont il a hérité au fin fond de la Sibérie. Et je pense que sur ce point, nos auditeurs comprendraient que notre personnage ne souhaite pas vraiment se rendre en Sibérie, parce que bon, quand même, c'est un voyage de plusieurs milliers de kilomètres à travers les steppes enneigées l'hiver, noyées de soleil l'été. Bon, en fait, c'est pas vraiment une partie de plaisir. On peut attraper des maladies. Il y a plein de virus qui traînent sur la route. On sait pas ce qui peut arriver. Et finalement, prendre les décisions, bouger, c'est vraiment pas le fort d'Oblomov. Et pour en terminer quand même, parce que je vais pas non plus trop m'étaler sur cette œuvre qui mérite quand même qu'on la lise, parce qu'elle est quand même vraiment géniale. Moi, je l'ai beaucoup aimée, parce que ça se limite pas qu'à un gros feignant. Ça aborde quand même beaucoup de sujets.
Ouais. C'est pas juste un chômeur professionnel, quoi.
Non. Bah, si tu veux ça, à la limite, je te conseillerais de regarder de la télé-réalité. Mais bon, voilà. C'est pourquoi en 2023, je trouve que bon. C'est vrai que pour les insomniaques, pour les gens qui ont du mal à trouver le sommeil, je leur conseillerais de suivre un peu Oblomov, parce qu'il est gros et feignant, mais je dirais que sur ce sujet quand même, il marque quand même un point. Voilà, pour moi c'est une bonne résolution à prendre d'être comme Oblomov, de ne rien faire,
de dormir, quoi.
De dormir, et comme ça on est sûr que on est en forme, au final.
C'est quoi pour que ça. Je suis pas sûr.
Non, parce qu'en fait, à la fin de l'histoire...
Il meurt ?
Alors, nos auditeurs vont t'arracher la tête, parce que oui, c'est vrai.
Ah ouais ?
Oui,
mais ah bah alors, j'ai dit au pif.
Non, mais de toute manière...
J'y vais,
non,
moi,
mais...
au...
Non, mais Lucas, je vais dire la vérité, de toute façon, depuis le début de l'histoire, ça se voit gros comme une maison, donc...
Ah ouais ?
Bon, pas aussi gros que lui, mais, mais quand même, ouais.
Bravo.
Et puis, il est jamais en forme, en réalité. Il dort beaucoup, mais il est jamais en forme.
Il fait pas de sport, quoi.
Ah non, jamais.
Jamais.
Non, jamais.
Il fait pas quelques pompes avant de dormir, tout ça, quoi.
Oui, mais lui, au moins, il dort bien, tu vois.
Lui, au moins, il dort bien.
Et ouais, voilà.
Effectivement.
Et ouais. Non, mais c'est pour ça. Et toi, Lucas, pour bien dormir, t'as trouvé quelque chose ?
Ah oui.
Ah ouais ?
Ouais, j'ai trouvé quelque chose. Écoute, moi, je vais te parler du sommeil, mais d'une autre manière, j'ai envie de dire. Parce que moi, quand on me parle de sommeil, je pense à cette idée que le sommeil est réparateur. On le dit, hein. De toute façon, Oblomov l'a vu,
ah oui.
Il le sait.
Ouais, hein. Complètement.
Il ne faut pas le prendre à la légère, il ne faut pas prendre à la légère ce proverbe, puisque le sommeil est à l'origine de nombreux bienfaits, tels que la mémorisation, l'apprentissage, le renforcement de l'immunité, la reconstruction cellulaire, le maintien de la vigilance, et améliore bien évidemment l'humeur. Ça, voilà, c'est rien de nouveau.
Ouais,
bien,
non, c'est ça, nous.
Bien au courant.
Ça, c'est sûr.
Ouais. Si on doit rajouter quelque chose à cela, c'est que... si tu dors pas, après tu as tendance à lutter contre le sommeil, et effectivement lutter contre le sommeil est certainement l'une des choses les plus difficiles, de tension, les paupières lourdes, avec une seule envie, celle de dormir, mais bien évidemment pas dans n'importe quelle circonstance, hein. Je suppose que t'as déjà vécu un moment où t'avais une folle envie de dormir et que... t'étais dans un endroit où tu ne pouvais pas, en fait, tu n'avais pas le droit de dormir, ou je sais pas, par exemple au volant, ah oui, quoique... Du coup, là, c'est un peu compliqué pour toi, mais...
Effectivement, c'est
mais,
vrai.
Je sais pas, en classe, par exemple.
Ah, est-ce que j'ai déjà essayé de dormir en classe ? Je me souviens, oui, j'étais en primaire, quand ça m'est arrivé.
Ah oui.
Et au collège-lycée, ça m'est peut-être déjà arrivé de beaucoup lutter.
Mm-hmm.
Peut-être quand j'avais 2 heures de philo, le vendredi matin.
Ah non, mais arrête, la philo, c'est le plus intéressant.
Ouais, mais bon, c'était un peu dur des fois.
Ok.
Surtout qu'en fait, le plus difficile, c'était la même journée de... En fait, jusqu'à 6 heures, j'avais maths pendant 2 heures.
Ah oui,
Voilà,
là par contre ça donne
là par
vraiment envie de
contre, ouais,
dormir.
c'était un peu compliqué.
Ouais, tu
Ouais,
m'étonnes.
ouais.
Bah écoute, parce que moi j'ai une petite anecdote, en fait, c'était, je crois que c'était tous les mardis, j'avais 2 heures de sport, et on faisait muscu, et donc je me donnais à fond, tu me connais, hein, forcément, quand
Comme
on dit
d'habitude.
muscu,
Ah bah,
bah voilà,
forcément, ouais,
quoi, hein,
voilà.
voilà. Mais écoute, j'avais 2 heures de muscu, mais ensuite j'avais 2 heures d'histoire. Tu le vois
Ah
arriver,
oui, effectivement.
bah, je luttais contre le sommeil parce que j'étais vraiment au fond, quoi. J'étais au fond du trou. Et bah, en fait, comment dire, je me suis habitué à mettre en œuvre quelques méthodes pour éviter de s'endormir en classe, notamment le pincement de cuisse qui fait extrêmement mal, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, ou encore des petites claques, mais bon, les petites claques, on va dire que le prof s'en rend très vite compte et il se demande si tu n'es. Bon, pas masochiste au final, mais voilà, il faut le dire, hein, c'est voilà. Et surtout que mon prof était très regardant sur ce genre de choses. Par exemple, il détestait qu'on se trafique les yeux, tu sais, genre qu'on se mette le doigt dans l'œil, tu sais que des fois ça gratte,
Donc,
forcément.
attends, juste.
Et ça le faisait vriller, quoi, on va dire.
J'ai juste une question parce que là, c'est quand même choquant. Tu viens de dire on. Donc, c'est-à-dire que vous étiez plusieurs pendant son cours à essayer de ne pas vous endormir?
En fait, oui, en fait, forcément, la classe de muscu, on était la même qu'en histoire, forcément. Donc, enfin, c'est peut-être pas sûr, parce que, bon, comme je viens de campagne, tu sais, les classes se ressemblent toutes, au final. On n'est pas énormément d'élèves, tu vois, pas comme en ville. Mais on va dire que là, c'était vraiment très, très difficile de ne pas s'endormir, et je crois que lutter contre le sommeil, c'est l'une des pires choses, enfin.
Ouais, c'est
J'ai
vrai.
horreur de ça, c'est affreux.
Je comprends.
Mais pour en venir au fait, cette lutte contre le sommeil est utilisée comme une peur dans l'un des films d'horreur les plus cultes. Petite devinette pour toi, Lucas, et pour nos auditeurs, même si d'un côté, si vous m'avez écouté et que bon, vous avez compris l'idée, le film ne sera pas dur à trouver. Et pour ça, je vais réciter une petite comptine. Es-tu prêt, Lucas?
Oui, bien sûr, je suis
Ok,
prêt.
eh bien j'y vais. Bon, en fait, je crois que dès le premier vers, tu vas comprendre, mais 1, 2, Freddy te coupera en deux. 3, 4, remonte chez toi 4 à 4. 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, surtout, ne dors pas la nuit. 9, 10, il est caché sous ton lit.
Eh bien, je dirais que, au vu de la première phrase, Freddy te coupera en deux. Je pense que tu parles peut-être de Bohemian Rhapsody.
Exactement.
Ouais.
Freddie Mercury.
Ah, effectivement. Je savais qu'il découpait les gens en deux, que voilà, c'est.
Exactement.
Et qu'il mettait les gens à quatre pattes. Ça,
Ouais.
c'est pas. Mais.
Ouais, on va. Oui, c'est
Non.
un terrain glissant, Lucas, ici, là.
Non, 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 ouais, effectivement. Ah, mais putain, je me suis pas rendu compte. Mais,
Bravo.
oui.
Non, mais tu vois comme quoi, tu es trop innocent, Lucas.
C'est vrai,
C'est
c'est
ça
vrai,
ton
c'est vrai.
problème.
Voilà.
Mais je comprends que tu sois parfaitement et que tu adores Freddie Mercury, puisque tu as une belle moustache, toi aussi.
Oui, c'est vrai, j'arbore une belle moustache,
Tu arbores une belle moustache,
c'est vrai,
exactement.
effectivement. Mais alors, en ce qui concerne ce dont tu veux nous parler, je n'ai toujours aucune idée.
Bon, mais écoute, les auditeurs, si vous êtes un petit peu moins bêtes que Lucas, je parle bien évidemment de.
Merci.
Merci de rien. Comme je parle de Freddy, les griffes de la nuit, qui met en scène 5 jeunes, hantés chaque nuit par le même cauchemar oppressant. Un homme à la voix caverneuse qui surgit des ténèbres, vêtu d'un t-shirt rouge et vert lacéré. Il dissimule sous un vieux chapeau son visage atrocement brûlé et défiguré. Sa main droite, gantée, est munie de 4 longues griffes. Et tu sais comment est venue l'idée des griffes de la nuit, Lucas?
Non, je ne sais pas.
Eh bien, sache que la première saga d'horreur du réalisateur américain s'inspire d'un fait divers du Los Angeles Times, puisque c'est l'histoire d'un enfant cambodgien traumatisé par la guerre du Vietnam qui refusait de dormir à cause de ses cauchemars incessants. Et un soir, alors qu'il avait réussi à trouver le sommeil, ses parents ont été réveillés par ses hurlements. avant de le retrouver, lui, sans vie et le visage marqué par la terreur. Une histoire qui a permis au réalisateur d'imaginer ce scénario fou et de nous faire découvrir pour la première fois sur le grand écran le fameux Johnny Depp. Tu sais, tu connais Johnny Depp ?
Mais bien sûr, Jack Sparrow.
Jack Sparrow, bien évidemment.
Jack Sparrow, Charlie la chocolaterie.
Eh bien, sache que Johnny Depp, dans Les Griffes de la Nuit, donc de Wes Craven, en 1984, le réalisateur se souvenait que Depp, qui n'avait que 21 ans, donnait l'impression de ne pas s'être douché et que ses doigts était taché de jaune à cause de la nicotine. Il l'a décrit comme quelqu'un de graisseux, de pâle et de maladif.
Bien, s'il était pâle et maladif, c'est peut-être qu'il avait mal dormi.
Effectivement.
Il avait peut-être mal dormi.
Il avait peut-être mal dormi.
Non, mais voilà.
Effectivement.
Après, moi, je pense que voilà. Mais bon, eh bien, Lucas...
voilà, moi, c'est tout pour moi au niveau des Griffes de la Nuit.
Ouais, mais quand même, ça donne envie de le regarder, là.
Ça donne envie de le regarder.
Ouais, ça donne envie de le regarder.
Tu vois, ce film, je trouve que c'est dommage, parce que les films en soi, c'est pas la mise en scène est pas ouf, je trouve. Mais l'idée du film est incroyable. L'histoire est incroyable.
Ouais.
Le fait de ne pas devoir s'endormir, sinon tu es assassiné dans tes cauchemars, ça, je trouve ça sympa. Mais ça n'empêche que je trouve qu'il est quand même extrêmement ridicule, Freddy.
Ouais, oui, c'est vrai. Bah,
il est assez ridicule.
Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'aime beaucoup le concept du film.
Le concept du film est incroyable. Ça, par contre, je suis d'accord.
Le concept du film est très bien.
Donc, voilà pour moi.
Je voulais rajouter quelque chose à ce propos, mais ça m'a complètement échappé.
Ah bon ?
Donc voilà.
Ça y est, tu es déjà hanté par Freddy ?
Mais je pense bien que oui, en fait. Ça y est, il vient de prendre la place dans mes pensées.
C'est ça.
Mais...
Et pas Bohemian Rhapsody ?
Non.
Non.
Non, 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 là c'est bon. Là c'est bon.
Non, parce que sinon tu vas avoir la chanson pendant genre 15 ans dans la tête et puis c'est affreux.
C'est vrai, c'est affreux. Eh bien, Lucas, on a quand même d'autres résolutions.
Oui, on a d'autres résolutions, bien sûr qu'on a d'autres résolutions.
On a d'autres résolutions dont il faut qu'on parle.
Et quelle est la prochaine résolution, Lucas ?
Eh bien, la prochaine résolution, Lucas, c'est une résolution que, alors, je trouve assez régulièrement absurde, mais qui revient chaque année, parce qu'il y a quand même des gens qui se disent que, ça y est, cette année, je vais trouver l'amour, je vais être en couple. Et c'est trop génial. Alors que, eh bien, moi, je vais leur montrer que ce n'est pas forcément toujours une bonne chose.
Mmh.
Et avant de commencer, eh bien, j'invite nos auditeurs peut-être à écouter un peu de musique. On va faire une petite pause musicale, Lucas.
Okay,
et ensuite, on parle de ce sujet.
Et, c'est quoi la musique, en fait ?
Eh bien, c'est Love is All de Roger Glover. Donc, ça date des années 70. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette musique. Alors, surtout pour le clip avec une grenouille qui joue de la guitare. Et c'est bizarre.
Super.
Mais moi j'aime bien, et donc
D'accord.
Je te propose de l'écouter, donc, je pense que tu vas beaucoup aimer.
On laisse quelques instants nos auditeurs pour écouter Love is All.
Oui, exactement, très bien. Eh bien, à tout de suite.
À tout de suite. contre, Lucas, tu as fait exprès.
De quoi ?
Eh bien, je trouve que le chanteur a la même voix que Freddie Mercury.
Je trouve un peu, mais ça va. Ça
en vrai, il a vraiment... Enfin, moi, j'ai l'impression... Enfin, il a la même voix.
Bah pour moi, c'est, ouais, bon, enfin, non, c'est, pas, c'est peut-être l'intonation quand même.
Ouais, mais voilà, je pense que c'est ça aussi.
Je pense que dire que quelqu'un a la même voix que Freddie Mercury, c'est un peu sacrilège.
Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, effectivement, ouais, ouais, clairement.
C'est pas parce que je suis un grand fan de Queen, mais...
C'est vrai qu'il n'y en a pas deux des Freddie Mercury.
Ah, il n'y en a pas deux.
Non, il n'y en a pas deux. Mais bon, écoute, je te propose de passer directement à notre prochaine résolution. Parle-nous-en de cette résolution, Lucas.
Alors oui, évidemment... je l'ai introduit juste avant la petite pause musicale, mm-hmm. qui est celle de trouver l'amour. Alors,
de trouver l'amour.
Franchement, c'est vrai qu'il y en a qui partent vraiment au départ 1er janvier, bam, allez, c'est bon.
C'est ça, ouais.
Ils disent, cette année, je vais trouver l'amour.
Cette année, c'est bon.
Ouais, cette année, c'est bon. Cette année, je me case avec quelqu'un. Mm-hmm. Et évidemment, en ce qui me concerne, bah, pour ceux qui souhaiteraient enfin trouver l'amour, comme toi, Lucas, par exemple, mm-hmm. Je vous présente une œuvre qui vous fera douter à deux fois avant de vous engager à déclarer votre flamme à votre bien-aimé. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, je pense que dans la littérature, il y avait des milliers, comme dans la musique, hein, des milliers d'œuvres qui parlaient du sujet, qui traitaient de l'amour.
Enfin, oui, franchement, je pense que c'est le sujet le plus utilisé.
C'est quand même déjà bien la preuve que ça fait souffrir beaucoup de monde. Mm-hmm. Mais bon, j'ai choisi une pièce de théâtre écrite par Racine, mm-hmm. Jean, de son prénom.
Jean.
Et cette pièce de théâtre se nomme... Bérénice.
Bérénice.
Et comme disent les Anglais, Berenice. Et elle a été jouée pour la première fois en novembre 1670. Et dans cette pièce, eh ben Bérénice, c'est la reine de Palestine, mm-hmm. et non d'Israël, tu le noteras, hein, puisque
oui,
j'ai vraiment décidé de tenir par entre. Je pense que je l'ai dit à la première émission, mais de tenir ma résolution de faire plus inclusif. Mm-hmm. Et,
c'est bien.
Et justement, bah, eh bien, ça prend scène, la scène prend lieu plutôt, hein, si je parlais le français, à la mort de l'empereur Vespasien, donc aux alentours de 70 pendant notre ère. L'empereur Vespasien meurt et son fils Titus prend le pouvoir et se voit confronté en fait un peu à l'hostilité que prête le peuple romain à la femme de sa vie, mm-hmm. Bérénice, qui prendrait le titre d'impératrice au moment de son accession à la tête de l'Empire. Donc entre les deux amoureux se glisse le personnage d'Antiochus, un ami dévoué d'une part à Titus sur les champs de bataille et d'autre part à Bérénice dont il est amoureux secrètement. Mais bon, Bérénice lui confie un peu les problèmes qu'elle a avec Titus. Et Antiochus reste pendant 5 ans aux côtés de Bérénice à se dire « Ah, je l'aime, mais elle en aime un autre et elle m'en parle constamment. C'est vraiment... » Très agréable, j'aime beaucoup.
C'est le triangle amoureux.
Ah oui, mais enfin c'est le triangle amoureux sans trop le savoir. En fait, c'est juste Antiochus qui est franchement, il faut le dire, je pense qu'il faut dire les termes, Lucas. Hein, c'est...
Vas-y.
On est quand même au 21e siècle, oui. On arrive, on est en 2023. Mm-hmm. C'est un peu le bon ami, la friendzone.
Exactement.
Voilà, c'est ça.
Oui,
mais...
c'est... C'est super.
Voilà, il faut le dire.
Très beau parallèle.
Exactement. Et bien, dans cette tragédie, plusieurs problèmes se posent aux protagonistes, parce que c'est bien la raison pour laquelle j'ai choisi cette œuvre, hein, c'est qu'il y a des problèmes. C'est le principe d'une tragédie. Alors d'abord, pour Titus, il s'agit d'affronter avec courage les épreuves et la rigueur que lui incombe la prise du pouvoir en se séparant de celle qu'il aime pour des motifs qui le dépassent. Mmh. Puisque, évidemment, l'hostilité des Romains, eh bien, ça ne dépend pas de lui. En d'autres termes, ils ne veulent pas d'une impératrice étrangère. Et afin d'assurer la continuité de l'État, bah, l'empereur est dans l'obligation d'éloigner Bérénice, de la renvoyer en Orient. Et d'ailleurs, je ferai juste une petite parenthèse qui devrait t'intéresser, Lucas.
Oui, vas-y.
Mais Racine dédie son œuvre à Louis XIV et à Colbert. Et se sert de cette pièce pour interroger la continuité du pouvoir et de la politique, mmh. qui est menée à cette époque.
Je l'avais déjà entendu, ça.
Et,
ouais.
Et justement, pour en revenir à l'histoire de la pièce, pour Antiochus, ses problèmes à lui, justement, c'est comment annoncer à Bérénice qu'il l'a toujours aimée. Et pour ça, il est forcé de partir de Rome pour oublier celle qui va devenir potentiellement impératrice, mmh. et la femme de Titus, donc. Et... comme on l'a dit, c'est un peu le meilleur ami obligé de se taire. Mmh. Bon, et enfin pour Bérénice, on s'en doute, Elle se retrouve prise entre ces deux hommes et leurs problèmes. Elle est forcée par Titus de quitter Rome avec Antiochus parce que, ben voilà, il est quand même bien obligé de lui dire « Les Romains ne veulent pas de toi, malheureusement. Je préfère le pouvoir à l'amour que je te porte. Donc, eh bien, est-ce que tu peux t'en aller ?» Et justement, bon, elle doute un peu de son amour et elle est obligée d'accepter son sort de reine.
C'est ça, ouais,
quand même,
c'est une fatalité de toute façon, voilà, qui revient chez Racine constamment.
C'est le fatum. Et voilà, bah, Bérénice, c'est une tragédie qui casse complètement le moral et qui montre que même quand on n'est pas empereur de Rome, même si ça pourrait être pas mal, hein, t'aimerais être empereur de Rome, toi ?
Non.
Moi non plus. L'amour possède son lot d'épreuves difficiles, dont la plupart aboutissent à la fin d'une belle histoire, parce que ce qu'il faut retenir quand même, c'est que Bérénice et Titus, on n'en parle pas quand même dans la pièce, mais c'est quand même 5 années d'amour fou, de bonheur, mais qui est cassé par l'arrivée au pouvoir de Titus, qui est obligé de prendre ses responsabilités. Et donc c'est la raison pour laquelle, et je le disais en introduction, Lucas, mais je suis plutôt de l'équipe Albert Camus. Moi, si j'avais un philosophe moderne préféré, c'était Camus. Parce que je vais en mettre une à Sartre. Il peut retourner dans sa grotte, car quand il reproche à certains de mettre en cause le destin dans leur malheur, eh bien, Racine montre que Sartre peut aller voir ailleurs, si je puis dire. Voilà. Donc c'est tout pour moi, pour Bérénice. Ou Bérénice, puisqu'on est en France.
Oui, bien évidemment, c'est Racine.
Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle je voulais un peu parler de cette œuvre pour ceux qui voudraient trouver l'amour en 2023.
D'accord.
Voilà. Et toi, Lucas, tu as quelque chose pour
J'ai quelque chose. Oui, j'ai quelque chose. J'ai un film à te proposer, bien évidemment, et à proposer à nos auditeurs, bien évidemment, pour parler d'amour. Je vais te présenter, donc, cette œuvre est, comme dirait un grand philosophe, un film pas piqué des hannetons, puisqu'il met en scène le grand et beau Ryan Gosling, l'acteur qui en excite plus d'une, il faut le dire.
Ouais.
C'est pourquoi j'invite toutes les personnes qui m'écoutent à regarder le film suivant nommé « Une fiancée pas comme les autres ». Et je vous vois arriver, vous vous dites mais c'est quoi ce film-là ? Ryan Gosling, une fiancée comme les autres, ça t'inspire quoi, Lucas ?
Moi, ça m'inspire, je vais le dire très franchement.
Ouais, vas-y, dis-moi.
Ça m'inspire le titre d'un téléfilm de Noël.
Oui, c'est vrai, hein.
Moi, je...
Effectivement.
Et là, alors, j'en avais déjà entendu parler.
D'accord.
De ce film.
Ok, ouais.
Mais je suis quasiment sûr, si on tape sur Internet, je pense qu'il y a vraiment un téléfilm de Noël qui s'appelle comme ça.
C'est fort probable.
Je suis sûr et certain.
C'est clairement probable. Bah écoute, moi ce film donc c'est un film que j'aime bien c'est un film qui m'a marqué parce que avoir Ryan Gosling dans ce genre de rôle c'est assez particulier, mais donc je vais vous en dire un peu plus. C'est quoi ce film finalement? Eh bien c'est un film dans lequel Ryan Gosling peut jouer le rôle qu'il aime, le genre de rôle qu'il aime, ce genre de rôle hyper borderline, si tu vois ce que je veux dire. Bien évidemment, puisque de nos jours, Ryan Gosling, il est devenu un petit peu un sex symbol depuis N'oublie jamais, notamment, mais également Crazy Stupid Love. Voilà, c'est l'idée du beau gars athlétique, charmant, bon, séduisant, voilà, qui attrape tout ce qui bouge, si je puis dire, tu vois. Voilà, il a un petit peu cette image-là, et finalement, dans cette fiancée pas comme les autres, dans ce chef-d'œuvre du cinéma, le tchatcher que l'on a pu voir dans Drive incarne un jeune homme nommé Lars, timide et introverti, vivant seul dans le garage de son frère et de sa belle-sœur, et l'un des vœux les plus chers de ce Lars n'est autre que de trouver l'amour. Ryan Gosling veut trouver l'amour. Miracle, puisqu'il rencontre une jeune femme sur Internet, mais cette mystérieuse femme n'est pas comme les autres, hein, une fiancée pas comme les autres. C'est une poupée gonflable à taille humaine nommée Bianca. Alors oui, je sais, le film a l'air très gênant au premier abord, et c'est le cas. Il nous plonge dans un malaise fou, Mais n'empêche que c'est possiblement le film dans lequel Ryan Gosling a eu le rôle le plus riche et pour le coup bien moins uniforme que dans ses rôles donc comme Drive, voilà, ou encore Only God Forgives, qui est une véritable daube. Mais ici, Ryan Gosling, en plus, il a un style terrible puisque, comme toi, il a une belle moustache.
Ah,
voilà.
Wow, c'est
et
fou,
je
ça.
Suis sûr que en te disant ça, tu vas te ruer sur le film.
Complètement.
Complètement.
Ouais, parce que je suis quelqu'un qui adore regarder des types mener une vie de couple avec une poupée. C'est
avec
vrai
une poupée.
C'est vrai que c'est mon
Mais
genre.
Tu sais que le film est extrêmement bienveillant. Hein.
Ah ouais?
Oui, parce que on pourrait se dire, ouais, d'accord, il va se trimballer avec sa poupée un peu partout en ville, tout le monde va se moquer de lui et tout. Eh bien, pas du tout. Tout le monde le soutient parce que, en gros, il a vécu un traumatisme plus jeune. Si vous voulez en savoir plus, vous verrez le film. Mais il a vécu un traumatisme et les gens sont véritablement là pour le soutenir. Et finalement, ils acceptent le fait qu'il ait, comme copine, une poupée gonflable.
C'est beau.
Voilà, et c'est beau, j'ai envie de te dire.
Moi, je trouve que c'est beau.
Et sache que cette poupée gonflable, qui interprète donc Bianca, a bénéficié du même traitement que les autres acteurs, tel que le producteur John Cameron nous l'explique. Il nous dit... D'un point de vue pratique, nous avons travaillé avec Bianca comme nous l'aurions fait avec n'importe quelle autre actrice, c'est-à-dire avec beaucoup de respect. Personne ne faisait de blagues sur elle. Nous voulions avant tout maintenir l'idée qu'elle était une vraie personne pour Lars. Nous avons demandé donc à toute l'équipe de la considérer comme telle. Est-ce que c'est pas beau ?
Moi, je trouve que c'est magnifique.
Et c'est extrêmement bizarre aussi.
Ouais, c'est vrai.
Mais tu vois, il y a vraiment cette idée que quand tu as un rôle au cinéma... tu entres véritablement dans la peau du personnage.
C'est vrai. Non, mais même pour les poupées. Donc c'est pour ça, moi, je trouve que c'est formidable.
C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant. Ouais. Bon, le film, sur la longueur, on s'ennuie quand même assez vite. Non, mais bon, c'est un peu long à force. Mais ça n'empêche que c'est un film qui mérite d'être vu parce que, déjà, c'est Ryan Gosling et que, voilà, c'est assez drôle, quoi, je dirais.
D'accord.
Donc voilà, j'en ai terminé avec une fiancée pas comme les autres. Donc voilà.
Très bien, eh bien on va enchaîner, je pense, Lucas, sur la dernière résolution.
Sur la dernière résolution, exactement.
Sur la dernière résolution.
Bien évidemment.
Dis-moi, Lucas, n'as-tu pas déjà entendu autour de toi des gens dire « Oh, cette année, je vais boire moins d'alcool, je vais arrêter de fumer, par exemple. Mm-hmm. » Des choses comme ça.
Oui, oui, bien
sûr. Je pense que c'est quelque chose de relativement courant, là,
oui,
pour le coup.
Oui, c'est assez récurrent, oui,
puis
clairement.
Même, c'est peut-être pas forcément que une histoire de bonne résolution, parce que généralement, c'est le genre de truc que... Enfin, de résolution que les gens prennent, même au mois de janvier.
Mm-hmm.
Enfin, au mois de
oui,
juillet,
clairement.
Plutôt. Ouais.
Oui.
Ouais, voilà, c'est...
Ou bien jamais.
Ou bien jamais aussi, c'est vrai.
Ou bien jamais, hein.
C'est vrai, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle, bah, moi, pour encourager ces gens un peu dans leur résolution, j'ai décidé de leur dédier une petite aparté sur un personnage, un livre d'un mm-hmm. auteur que j'aime énormément. D'ailleurs, assez extraordinaire, c'est que ce livre a été rédigé en à peine un mois. Je parle du Joueur de Dostoïevski. En fait, c'est un petit roman qui cache un fond d'autobiographie, puisque l'auteur évoque l'histoire d'un personnage, Alexei, qui, comme lui, est addict au jeu.
Mm-hmm.
Et ce livre, gros d'un peu moins de 200 pages, est une véritable torture, un supplice qu'il faut pouvoir supporter. Parce que
ah oui, 200 pages, pour le coup.
Ouais, c'est 200 pages, ça se lit assez rapidement, parce que c'est dans le style, c'est assez sympathique, c'est mm-hmm. pas trop lourd. Le problème, c'est que, voilà... C'est l'histoire d'un accro au jeu qui, bon, justement, souhaiterait arrêter, comme tous les gens accros au jeu qui se rendent compte qu'ils perdent de l'argent.
Mm-hmm.
Le problème, c'est que voilà, ce livre nous montre, et Dostoïevski l'a admis lui-même dans Le Journal d'un écrivain, donc qui est un livre où on voit toutes les correspondances qu'il avait avec ses lecteurs,
mm-hmm.
c'est que, bon, voilà, c'est un peu comme une maladie. En fait, l'histoire prend place dans une ville imaginaire du nom de Roulettenbourg, située en Allemagne, qui en fait est une version fictive de Baden-Baden, qui est une ville thermale où l'auteur russe avait coutume de se ruiner dans les casinos, comme beaucoup d'autres villes thermales de l'époque au 19e. Et en fait, bah, le personnage suit les traces de son créateur et perd chaque soir des sommes d'argent considérables.
Mmh.
Et c'est la raison pour laquelle c'est une véritable torture, c'est qu'à chaque fois qu'il gagne, par exemple, l'équivalent, je ne sais pas, je vais parler en termes modernes, mais 100 000 euros,
oui.
Bon, eh bien, le gars va relancer recommencer tout juste après.
Ouais, c'est voilà. Le principe même de l'addiction au jeu,
voilà,
quoi.
C'est ça. Donc, clairement. Et c'est ce qui donne envie de d'arracher le livre, de secouer le type et de
le brûler.
Arrête, s'il te plaît, arrête. Et bon, il continue toujours. Bon, alors c'est un roman, évidemment, il y a une histoire d'amour. On apprend que le narrateur est amoureux de Pauline, qui elle-même est amoureuse de lui, mais on apprend ça par contre à la fin du livre. Mais au-delà de ça, l'histoire d'un précepteur qui loge avec une famille symbolique de la plupart des vices que reproche Dostoïevski aux Occidentaux, aux élites russes de son temps. Il y a la figure du général, maître de famille lourdement endetté, qui attend la mort de sa tante pour toucher un héritage et pouvoir combler ses dettes. Et il y a aussi justement la figure de cette tante qui est une vieille madame qui se trouve aussi être accro au jeu. Puisque quand elle arrive dans le casino avec le personnage principal, elle est prise dans une espèce de transe, de crise maladive à mesure que les heures passent autour des tables de jeu. Et en fait, elle joue jusqu'à perdre toutes ses économies.
C'est ça, ouais.
Et en fait, l'entourage est obligé d'intervenir. Et c'est là où je trouve le livre assez intéressant parce que c'est écrit à la première personne. C'est vraiment le témoignage d'Alexei, le personnage principal. Et c'est un peu comme un livre écrit par un naufragé, c'est-à-dire qu'il est échoué sur le bord d'une plage après une tempête avec une série d'événements qui ont fait que c'était vraiment... il était secoué et en fait, ça dépendait vraiment pas de lui. Et justement, je trouve que c'était assez intéressant parce que Dostoïevski dresse le tableau de ces démons dont il a lui-même admis que venir à bout de ceci est une chose difficile, nécessite de se faire violence. Mmh. Et ça montre que l'addiction au jeu, au-delà de... d'une volonté, c'est vraiment une vraie maladie, quoi.
C'est ça. Ouais, justement, ça revient sur cette idée, quand j'en parlais au début, quand j'ai fait le point sur la philosophie, c'est que il y a véritablement cette volonté d'arrêter, mais il faut accepter que on va souffrir. On va souffrir pour arrêter. C'est aussi cette idée, là, qui est mise en place. Et, tu vois, la manière dont tu l'as raconté, j'ai vraiment senti le côté tomber malade dans l'addiction.
C'est ça.
Il y a vraiment cette idée-là.
C'est ça.
Et c'est ça qui est super intéressant. Mais je comprends que ce genre de livre soit extrêmement frustrant. Et d'ailleurs, j'en viens à un film qui également est très frustrant, très choquant. Je parle bien évidemment, quand on parle d'addiction, quand on parle de cinéma, on pense la plupart du temps à Requiem for a Dream. Bon, Requiem for a Dream, je vais le dire en français, ça va être plus simple.
Oui.
Pour ceux donc, qui ne connaissent pas, est-ce que tu connais le film, Lucas ?
Je connais deux noms.
Tu connais deux noms ?
Ok. Ouais.
Bon, c'est un culte quand même. Alors, pour ceux donc, qui ne connaissent pas, c'est un film dans lequel on peut retrouver Jared Leto, qui a d'ailleurs incarné Morbius dernièrement. Comme quoi, il a le chic pour interpréter des rôles pourris et glauques. Si vous voulez passer une mauvaise soirée, avoir des sueurs froides, être mal à l'aise, avoir envie de quitter la pièce, d'aller prendre l'air et penser à autre chose, regardez Requiem for a Dream. Pour la faire courte, ce film entre dans la vie de plusieurs personnes qui sont rongées par leurs addictions, comme Harry, donc Jared Leto, addict à la drogue, Marion, sa copine, addict à la drogue également et au sexe, la mère d'Harry, Sarah, qui souffre d'une addiction au jeu, justement, précisément télévisée. Le rythme, il est dans le film, est assez violent, hein, bien évidemment, et monte crescendo dans la dernière demi-heure du film, c'est insoutenable. Il met en avant finalement ce côté étouffant et fataliste du sujet de l'addiction aux drogues et ses répercussions. Vous l'aurez bien compris, la mise en scène est folle dans tous les sens du terme, mais si vous êtes sensible, je ne vous conseille pas vraiment de le regarder, car il est vraiment très sombre et très très anxiogène. Aronofsky, donc le réalisateur, complète donc totalement sa quête, celle de dérouter le spectateur vis-à-vis des drogues dures, vis-à-vis de l'addiction. Le film est d'une telle violence psychologique qu'il a été interdit au moins de 18 ans en France, ce qui est quand même assez rare, et au moins de 17 ans aux États-Unis. Il a carrément été interdit en salle dans certains pays. Donc, Requiem for a Dream dépeint des drogués Et la description de Darren Aronofsky est très proche de la réalité, et ça a été énormément mis en avant par de nombreux critiques qui expliquent que justement c'est ça qui est véritablement déroutant, c'est ça qui fait peur, c'est qu'il est très très réaliste. Et c'est justement ce que l'on cherche ici pour dégoûter les gens des addictions. Ainsi, certaines facultés de philosophie donc ont étudié également le film afin de comprendre le comportement des junkies, donc ces gens qui sont addicts à la drogue, pour ceux qui ne sauraient pas. Et de plus, ce film est régulièrement montré dans les lycées afin de faire comprendre aux élèves les dangers de la drogue. Bon, personnellement, je ne serais pas pour passer un film comme ça dans un lycée, même si c'est pour défendre une cause et développer, enfin, faire une prévention, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, je pense qu'il peut quand même assez traumatiser des jeunes, même s'ils sont au lycée. Et donc voilà, ça en est tout pour moi avec ce film-là.
À ton avis, est-ce que là, les gens qui viennent de nous écouter vont vraiment tenir leur résolution, du coup, d'arrêter le tabac, d'arrêter quelque chose, par
exemple? Eh bien, écoute, peut-être.
Ouais,
par exemple, on peut faire des miracles.
Ouais, il y en a qui disent, oh, je vais arrêter de manger des fast-food, par exemple. Trop de
exactement,
fast-food,
oui, ça se fait aussi.
Et
beaucoup,
à ton avis, est-ce que ces gens, en nous ayant écoutés, vont se dire, ouais, en fait, va vraiment falloir se faire violence, là?
Peut-être.
Ouais.
Mais tu vois, moi, ça me fait réfléchir. Rien que d'avoir bossé sur le point de vue philosophique du début, ça me faisait réfléchir.
Je comprends.
Parce qu'on a l'impression, finalement, c'est cette image-là, on se reconnaît, j'ai l'impression.
C'est vrai.
Donc, pourquoi pas?
Ouais,
j'ai envie
pourquoi
de dire.
Pourquoi pas?
Et écoute, c'est déjà la fin.
C'est déjà la fin
de notre émission Radar.
Mince.
On se retrouvera très bientôt, toujours sur 98.8. Mais il faut savoir aussi qu'un site a été créé, enfin un site a été, le site a été modernisé, donc de Radio Campus Pau, qui est un très beau site où vous allez pouvoir également retrouver des articles, mais de nombreux podcasts, tous les podcasts qui sortent de manière bon, tout est mis à jour tous les jours, et ça c'est beau. Et je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Lucas, dis-nous.
Eh bien que, de toute manière, vous pourrez retrouver Radar en podcast sur le site de Radio Campus.
Exactement.
Et de toute façon, je pense, j'ai pas trop envie de m'avancer, je pense, Lucas, que tu penses un peu à la même chose que moi,
oui.
Mais il se pourrait qu'il y ait une belle... un nouveau truc qui risque d'arriver prochainement pour Radio Campus et pour nos auditeurs.
Effectivement.
Et qui leur permettra d'écouter les podcasts vraiment partout.
Effectivement, là tu... Là,
j'en dis pas plus,
J'en dis pas plus.
C'est ah, bon.
Mais effectivement, vous allez avoir une petite surprise, donc ça c'est chouette. Ouais. Et puis je pense que ça facilitera aussi la communication,
ouais.
Clairement.
Très bien.
Et aussi, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux,
oui.
Sachez que nous avons un compte Instagram,
oui.
Radar98.8, et vous pouvez nous suivre. Bon, on n'a pas mis trop de photos encore, mais ça ne serait tardé.
Oui, effectivement.
Effectivement.
Tu as tout à fait raison, Lucas.
Donc voilà, eh bien, je vous souhaite une excellente matinée, une excellente... après-midi et une excellente
soirée.